J'ai lu récemment un livre que certains d'entre vous connaissent certainement, intitulé « Le contrebandier en Chine », qui parle de l'église persécutée en Chine dans les années 70-80 et de l'envoi de Bible là-bas pour les chrétiens, à l'époque de la révolution culturelle et d'autres événements complètement fous qui ont eu lieu sous le régime communiste, avec emprisonnement de masse, système de rééducation politique, etc. Les chrétiens étaient particulièrement visés en tant que contre-révolutionnaires prétendument à la solde de l'Occident. Arrestations, interrogatoires, tortures, emprisonnement, camps de travail, et souvent morts pour finir de faim, d'épuisement ou de maltraitance. Un passage de ce livre m'a pourtant particulièrement interpellé, et je cite la conversation qui était entre une personne revenant de Chine et une autre qui était à Hong Kong, en territoire britannique à l'époque. Il nous demande sans cesse des Bibles, mais plus important encore, ils nous demandaient de prier. Ils ont un très grand besoin de savoir que les frères et sœurs les soutiennent chaque jour dans le monde libre. Il ne leur est pas facile de prendre hardiment position pour le Christ. Cela leur coûte très cher. Et ce qui devrait nous faire réfléchir, c'est qu'ils prient déjà chaque jour pour nous, les chrétiens du monde extérieur. Ils prient pour nous. Et pourquoi prient-ils? Ils prient pour que dans le confort de notre abondance, nous ne laissions pas notre témoignage s'affaiblir. Ils prient pour que la puissance du matérialisme n'éteigne pas notre feu pour le Seigneur. Ils prient pour que la puissance du matérialisme n'éteigne pas notre feu pour le Seigneur. Nous devrions être en train de prier pour eux, et ce sont eux qui s'inquiètent et prient pour nous. Ils font bien, de fait, le matérialisme est puissant et a quelque peu éteint le feu pour le Seigneur en Occident. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Ceci dit, pas facile de faire une prédication sur l'Église persécutée. Parler de persécution, ça plombe évidemment l'ambiance. Ça ne cadre pas avec le côté louange ou adoration que l'on attend peut-être d'un culte. Mais ça peut aussi faire partie des choses qui nous révoltent et nous font crier notre incompréhension au Seigneur. Ce court récit montre pourtant qu'il y a bien des sujets de reconnaissance et de louange envers notre Dieu pour l'Église persécutée, malgré la persécution. Elle a sans doute beaucoup de choses à nous apprendre, cette Église persécutée, en termes de persévérance, en termes de consécration, de sanctification, et même bien sûr de prière. Quand je lis ce genre de récit, je suis fier et reconnaissant d'avoir et de connaître Jésus. Lui seul capable de donner à ses fidèles la force de transcender ainsi et d'avoir une telle espérance et un tel altruisme malgré leur situation souvent désespérée. Peut-on faire cela juste avec des forces humaines et une détermination humaine? Non. Seul le Seigneur peut rendre cela possible. Ça me motive à arrêter de regarder mon nombril et à porter vers lui ses frères et ses sœurs, mes frères et mes sœurs, durement éprouvés. Seigneur, abrège leurs souffrances, je te prie, garde-les encore fidèles. Merci pour leur exemple de foi. Fortifie-les. Porteurs d'espérance pour que l'Église de l'ombre brille. C'est l'intitulé de Porte Ouverte propose pour ce message à la fois intercession, mais aussi espoir et foi. Certitude dans le Seigneur qui est fidèle à ses promesses. Le Seigneur qui agit, assurément. Jean 15, verset 17, Jésus disait « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi au milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Les paroles de notre Seigneur ne se limitent évidemment pas à ce passage, heureusement. Sinon, qui pourrait comprendre pourquoi ces gens suivent Jésus, y compris au péril de leur confort, au péril de leur vie? Mais ces paroles de Jésus ne sont pas non plus à occulter. Elles sont une vérité, une actualité même pour de nombreux chrétiens de par le monde. La persécution contre les chrétiens existe depuis les débuts de l'Église et elle continue au XXIe siècle. Dès les premières pages du livre des Actes, le judaïsme, religion strictement monothéiste, voyait d'un très mauvais œil l'adoration de Jésus et a commencé à persécuter ceux qui le suivaient. Le christianisme était très controversé chez les juifs qui voyaient une contrefaçon du judaïsme, une secte. Puis, à partir des persécutions par Néron, le christianisme sera aussi également mal vu chez les Romains. Et c'est un euphémisme que de dire cela. Pourtant, le Nouveau Testament est rempli d'histoires de personnes abandonnant le judaïsme, abandonnant le polythéisme, se détournant des idoles. Ces convertis depuis notre religion sont, comme on l'a vu dans la vidéo, les plus persécutés. Nous n'avions probablement pas d'arrière-plan religieux particulier. Nous avons donc sans doute été plus tranquilles quand nous avons découvert Christ. Mais aujourd'hui encore, ceux qui découvrent et acceptent le Seigneur Jésus, en venant d'une autre religion, islam, hindouisme, bouddhisme, comptent parmi les plus persécutés. L'abandon de leur croyance passée, la croyance familiale, la croyance du village, du pays, est en effet très souvent insupportable pour les autres, les proches en particulier. Et cela oblige souvent les chrétiens à rester dans l'ombre. On a eu plusieurs exemples déjà dans le film, et Porte Ouverte donne d'autres exemples. Les problèmes ont commencé quand je suis devenu chrétien. Ma famille musulmane m'a rejeté. Pour mon père, je n'étais plus rien. Un jour, la police secrète est soudainement entrée dans mon appartement, alors que nous étions plusieurs chrétiens réunis. Depuis, je n'ai plus jamais été en sécurité dans mon pays, que je ne voulais pourtant pas quitter. Je n'ai pas eu d'autre choix que de partir. J'ai tout perdu, même mon père. Tel est le témoignage de Sabir, qui a dû quitter son pays et qui aujourd'hui vit dans un camp, quelque part au Moyen-Orient. Et ce genre de témoignage est malheureusement tristement fréquent. En Asie centrale, un autre pasteur, Ibrahim, décrit en outre, « Pour les Ouzbeks tentés par le christianisme, les sanctions sont très sévères. Forte amende ou prison pour les participants à des réunions chrétiennes. Mais la prison n'est pas le pire. Après une arrestation, les interrogatoires se font en général sous la torture, dans le but d'obtenir les noms de tout le réseau. La persécution la plus difficile à supporter est sans doute celle qui vient de ce qu'on aime, de ceux qui vous entourent, qui sont de notre famille, de notre quartier. Dans beaucoup de pays, les convertis sont vus comme des traîtres par la famille ou les gens du village, car ils ont abandonné ce qui était le plus important et le plus précieux pour la société et pour la famille. De ce fait, l'Église de ces chrétiens de l'ombre est une Église très persécutée et vulnérable. Je lirai deux passages dans l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 8. Écrit à l'ange de l'Église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Dans les lettres aux 7 églises d'Asie mineure, rapportées au début du livre de l'Apocalypse, on constate que seules 2 églises ne reçoivent pas de reproches de la part du Christ. Il s'agit des églises de Philadelphie et de Smyrne. Seulement 2 églises sans reproche. Ça peut nous donner peut-être à réfléchir. Et ces 2 églises connaissent la persécution, comme on peut le voir dans ces versets. Alors, je ne pense pas qu'il faille prier pour être persécuté, mais assurément, la difficulté et l'épreuve sont souvent des situations qui aident d'une certaine façon à maintenir nos regards vers le Seigneur, à le rechercher, à dépendre de lui et à penser aux autres. Assurément, nous avons beaucoup à apprendre de ces églises et nous avons évidemment à les soutenir aussi. Et l'autre passage, c'est dans Apocalypse 3:7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, que tu ne, que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. L'église de Philadelphie est décrite comme ayant peu de puissance. Peu de puissance à vue humaine, sans aucun doute, pauvre et méprisée par les autres. De même, l'église de l'ombre est surtout une église minoritaire. Elle est en position de faiblesse par rapport à la religion majoritaire, fragile. La discrimination la maintient dans la pauvreté. La pression sur les convertis pour les forcer à retourner vers la religion majoritaire est souvent importante. Mais ces églises ont une fidélité, une persévérance que le Seigneur reconnaît. Continuons à prier pour elles, pour que cela continue, qu'elles soient gardées fidèles, qu'elles soient persévérantes. C'est ce que Jésus relève dans ce passage, la fidélité de ces chrétiens. Parce que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, dit-il. Nous pouvons assurément être inspirés par leur exemple et encouragés. Qu'est-ce que Dieu veut en effet voir en nous? Que veut-il voir le plus, en tout cas? Une spiritualité spectaculaire? Des dons, des manifestations? Ou la fidélité dans les petites choses? La fidélité endurante, la fidélité dans sa parole, la fidélité dans la prière. Oui, ce qui est important, c'est la persévérance. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Jacques 1, verset 2. Une église qui persévère et qui sera un modèle à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde, comme le prévient encore ce passage. En Inde, la discrimination envers les chrétiens est quotidienne. À titre d'exemple, depuis juillet 2015, dans 54 villages de l'état de Chhattisgarh, les chrétiens se voient refuser tout permis de construire, pour des maisons individuelles comme pour d'autres bâtiments. Ils ne peuvent pas bénéficier de l'aide alimentaire, n'ont pas le droit de puiser l'eau des puits publics et sont exclus des emplois agricoles, réservé en priorité aux hindous. Si ces chrétiens convertis revenaient à l'hindouisme, ces discriminations cesseraient. Et d'ailleurs, le parti au pouvoir, un parti pro-hindouiste, organise des cérémonies de reconversion des chrétiens vers l'hindouisme, appelées retour au foyer. Et ils offrent d'importantes récompenses aux chrétiens convertis afin qu'ils reviennent à l'hindouisme. Les jeunes femmes converties sont mariées de force à un musulman pour les obliger d'élever leurs enfants dans l'islam. Les jeunes hommes qui se tournent vers Christ sont chassés de chez eux. Dans des pays où la famille constitue la trame sociale, il existe une forte pression pour revenir à la religion d'origine. Quel prix à payer pour accepter et suivre le Christ? Nous n'avons sans doute pas idée de tout ce que cela peut être au quotidien. Mais prions, prions pour ces chrétiens, soutenons-les, et remercions le Seigneur parce que, même en pareilles circonstances, son amour est le plus fort. Son amour est le plus fort et des gens le découvrent et l'acceptent encore malgré tout. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, disait l'apôtre Pierre. Assurément, c'est vrai. Ça ne peut être que vrai pour que des gens soient prêts à endurer tout cela pour Jésus. Le plus mystérieux, ou plutôt le plus fabuleux en effet, demeure ces conversions au christianisme malgré tout. Ces gens qui découvrent encore et acceptent Jésus. Le texte dit même, de l'Apocalypse, dit même que les ennemis se prosterneront au pied de l'Église et connaîtront que le Seigneur l'a aimé. De fait, malgré tout, les églises de l'ombre sont également des églises qui annoncent l'Évangile auprès de ceux qui les persécutent, auprès de ceux qui ne marchent pas dans la vérité et qui sont décrits comme une synagogue de Satan dans ce passage, tellement ils sont loin de la vérité. Grâce au témoignage de ces chrétiens, les ennemis de l'Évangile se convertissent et viennent à la vérité. À travers l'histoire et le monde, de fait, l'Église a souvent énormément grandi, malgré sa faiblesse, pendant les périodes de persécution. Et son témoignage a rarement été aussi puissant que dans ces moments-là. Paul, était-il masochiste ? Disait même, en 2 Corinthiens 12, verset 10, « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calomnies et dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Oh non, il n'était pas masochiste. Juste conscient de l'action de Dieu et confiant en cette action de Dieu. Remercions-en le Seigneur. Ces convertis sont un don de Christ. Les conséquences de leur conversion sont tellement dures à vivre que nous pouvons voir chacun d'eux comme un don précieux. Dans le monde, on assiste aujourd'hui à de nombreuses conversions. Le fruit que nous voyons aujourd'hui est le fruit d'années de prière, d'évangélisation et de fidélité par des missionnaires et des chrétiens présents sur le terrain, par le témoignage endurant et d'amour des chrétiens sur place. Indéniablement, les chrétiens de l'ombre connaissent l'amour de Dieu malgré la persécution. Et ils partagent cet amour aux autres. Achmet, un chrétien d'une quarantaine d'années, marié et père de 3 filles adolescentes, raconte ses épreuves après sa conversion. « Mes parents m'ont renié et nous ont jetés à la porte. Mon frère a tenté de démolir la maison où nous avions emménagé en la percutant avec un camion. Les musulmans m'ont menacé, m'ont frappé, me disant que si je ne renonçais pas à la foi chrétienne, je le regretterais amèrement. » La voix émue, Achmet poursuit. « À l'école, mes filles étaient harcelées. On leur disait qu'elles étaient les filles d'un traître. Plusieurs enseignants leur donnaient des mauvaises notes, même si elles avaient bien travaillé. Certains voisins médisaient de nous, disant que nous avions adopté une religion étrangère juste pour l'argent. À l'hostilité de la famille et des voisins s'est ajoutée la pression des autorités. Un jour, il n'a plus eu d'autre choix que de se cacher avec toute sa famille. Nous avons alors quitté la maison en toute hâte, fugitifs et démunis. Nous avons pris contact avec Porte Ouverte et il nous a trouvé une autre place. Je ne sais pas comment nous aurions supporté tout cela sans la certitude que nous souffrions pour Christ. Je ne sais pas comment nous aurions supporté tout cela sans la certitude que nous souffrions pour Christ. Aujourd'hui, Achmet et sa famille aident la communauté locale à répandre l'Évangile en Asie centrale. Les conversions sont souvent contagieuses, ce qui explique en partie l'expansion actuelle du christianisme, dit aussi Malika, une femme de 37 ans en Algérie. Mère de 8 enfants, elle a été répudiée par son mari à sa conversion et a perdu tout droit sur ses enfants. Mais elle a tenu bon, suscité des interrogations, voire de l'admiration, et plusieurs de ses enfants ont aussi découvert le Seigneur et se sont convertis à leur tour. Et depuis le début de l'année, elle peut à nouveau les voir. Si nous voulons voir l'Évangile s'étendre dans le monde, soyons porteurs d'espérance pour ces convertis d'arrière-plan, musulmans, hindouistes, bouddhistes ou autres. Prions pour eux et agissons pour qu'ils soient fortifiés et encouragés. Eux, ils prient pour que dans le confort de notre abondance, nous ne laissions pas notre témoignage s'affaiblir. Eux, ils prient pour que la puissance du matérialisme n'éteigne pas notre feu pour le Seigneur. Les conversions sont souvent contagieuses. Puisse le Seigneur continuer à permettre cela, en toutes circonstances et malgré les persécutions, pour sa seule gloire. Amen.